Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bienvenue en ce dimanche matin pour une première rencontre de cette deuxième journée des Utopiales. C'est une rencontre placée sous le signe de l'intitulé Psychophobia. Et nous allons passer donc un moment avec nos quatre invités. Oh, j'avais pas vu cette jolie petite bête. Avec nos quatre invités. Et je commencerai tout au bout là-bas avec Christophe Siebert, qui est là pour plusieurs de ses romans et notamment les chroniques du Merdvegorod, à peu près. Hein.
De mieux en mieux. Chaque année, c'est mieux.
Ouais, c'est à force de le lire, de le voir, de le prononcer. Serge Lehmann, avec nous pour plein de choses, un travail de critique, d'anthologiste, d'auteur, de scénariste, et puis qu'on peut lire tout récemment dans Vega et puis dans Saint-Elme également. Karine Renberg, qui est là pour Meute, un roman paru aux éditions Actu SF. Et puis Sylvain Forge, pour plusieurs livres déjà, le dernier étant Sarah, dont on reparlera, mais on parlera aussi sans doute des précédents. Et vous les retrouverez à la fin de la rencontre en dédicace également. Et nous allons donc parler avec vous aussi, les fous du dimanche matin à 9h, nombreux. C'est super de vous voir là.
Le dimanche du changement d'heure.
Oui, mais on gagne dans ce sens-là, ça va. C'est presque trop facile. la monstruosité, du monstre, de la folie et du crime. En réfléchissant à ce sujet qui est assez vaste. Je pensais, moi, à un film pour nous amener dans cette discussion et sur cette figure du monstre et du fou. Je pensais au Silence des agneaux parce qu'il il est assez pratique pour parler de ce thème puisque le Silence des agneaux, je pense que bon, tout le monde voit le film et le roman de Robert Harris, mais il repose sur deux personnages de monstres, de tueurs. L'un qui est Hannibal Lecter, qui est sans doute la figure qui l'emporte dans l'imaginaire puisque c'est, alors lui pour le coup, c'est le monstre qui est même représenté à un moment sur une estrade que Clarisse vient rencontrer, vient interroger, qui est le pur sadique, probablement, sauf si quelqu'un a une autre vision d'Hannibal Lecter. Mais il y a un deuxième tueur aussi, qui est celui qui tue les femmes, qui les dépèce et qui prend leur peau parce qu'il veut être une femme et il veut se construire un habit féminin avec tout ça, et qui est présenté d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire que lui, il y a des motivations sociales également à son geste. Je ne dirais pas tout pour ceux qui n'ont éventuellement pas encore vu le film ou le livre. Mais on a deux approches, là, déjà, du monstre et de la folie qui imprègnent la littérature et le cinéma également. Et je voulais voir avec vous un peu déjà comment cette figure, notamment du tueur, parce que ça revient dans vos univers à tous les quatre, et quelquefois extrême. Enfin, moi, je sais que j'en ai un peu soupé des serial killers machiavéliques au QI hyper élevé et qui ne sont pas, sauf erreur de ma part, vraiment des personnages que vous utilisez ou que vous creusez. Comment le tueur peut vous intéresser et à quel niveau déjà par rapport à ce sujet-là ?
C'est marrant que tu parles du Silence des agneaux parce que justement, quand j'ai écrit Nuit noire, qui est un roman qui met en scène un tueur en série qui raconte sa vie à la première personne, donc de sa petite enfance jusqu'au moment où il voit ses derniers jours arriver. J'ai justement construit comme un anti-Silence des agneaux. Parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait pas mal de fictions, que ce soit en livre ou en film, qui mettaient en scène des tueurs en série très bien habillés, très intelligents, qui écoutaient du Bach, etc., qui séduisaient leur entourage. Et je trouvais ça à la fois assez peu réaliste et surtout assez crapuleux, parce que je vois pas bien l'intérêt de prendre cette figure pour en faire une sorte de super-vilain ou de super-héros du mal très charismatique. Et donc j'ai construit par opposition un tueur en série qui est à la fois totalement réaliste, c'est-à-dire qu'il est con, il est violent, il est bourré de préjugés très, très bas de plafond, et évidemment extrêmement, extrêmement violent, et ce qui produit un bouquin que beaucoup de lecteurs jugent insoutenable. Et c'était le but, évidemment. Mais pour en revenir au Silence des agneaux, c'est vrai que Ta présentation me fait penser que, en fait, le vrai personnage, enfin, Hannibal Lecter sert de catalyseur, en fait, et les fous, c'est plutôt les autres, c'est-à-dire qu'il y a, il y a Buffalo Bill, Clarice Sterling et son patron, je ne me souviens plus comment il s'appelle.
Crawford.
Crawford, ouais, merci. Qui ont tous les trois leur folie intérieure qui est catalysée en fait par ce personnage de Lecter qui du coup devient un non-personnage, devient une espèce de pivot autour duquel chacun se révèle. Et c'est peut-être ça qui rend le bouquin plus intéressant, davantage que la figure de Lecter qui est un peu, enfin qui est pour moi sans réel intérêt.
Alors sur d'abord il y a avant Le Silence des Agneaux, Harris avait fait un premier livre qui s'appelait Dragon Rouge, qui est peut-être moins grand public, mais à mon avis qui est meilleur, d'abord parce que c'est son premier, enfin c'est son premier sur cette série. Et puis dans Le Silence des Agneaux, dans Dragon Rouge c'est déjà amorcé, mais dans Le Silence des Agneaux, Lecter est et après encore plus sur Hannibal, ça devient un personnage positif en fait. C'est-à-dire qu'il protège Clarisse, il ne s'attaque finalement, nous, ce qu'on voit, qu'à des pourris qu'il venge ou qu'il... auquel il rend la monnaie de sa pièce. Donc c'est presque un personnage de... Il est, on le voit jamais vraiment... on n'a jamais eu accès à Hannibal Lecter à ce moment-là de l'histoire, tel qu'il était avant, c'est-à-dire un pur tueur sadique. Nous, on a plutôt affaire à une sorte d'homme que le contact avec Clarice Starling rachète d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il la prend, il l'admire, on se demande même s'il n'est pas amoureux d'elle. En tout cas, on sait qu'il ne la tuera jamais, qu'il ne l'agressera jamais. D'ailleurs, il le lui dit, elle n'a jamais peur de lui vraiment à la fin. Il lui sert de psychanalyste. Le Silence des Agneaux, c'est quand même la remontée vers son traumatisme à elle. Et puis surtout, il conseille la police. C'est-à-dire qu'il utilise ses propres déviances comme un miroir qu'il présente aux flics en disant « Moi, j'aurais fait ça, il fait peut-être ça. Bon. » Donc c'est un personnage très ambigu, Lecter. C'est une sorte de fantomas qui serait passé du côté du bien. Plus intéressant peut-être, et enfin, en tout cas différent, et peut-être plus proche du thème, dans Dragon Rouge aussi bien que dans Le Silence des Agneaux, est la figure du tueur, alors non plus en génie du mal, mais en possédé. Dans Dragon Rouge en particulier, il y a une scène qui est extraordinaire, qui est la scène où le tueur va... dans un grand musée à New York et obtient de consulter une planche originale de William Blake qu'il mange. La planche qui représente un dragon rouge parce qu'il s'approprie les pouvoirs qu'il prête à cette image. Ce qui n'est pas si loin de la figure du tueur dans Le Silence des Agneaux qui revêt des costumes de femme. C'est une manière de et tous les deux sont au fond présentés comme des victimes. Robert Harris les rachète aussi auprès du public. Il y a un très beau passage dans Dragon Rouge où le flic qui a été mutilé par Lecter et qu'on vient chercher pour faire l'enquête, quand il enquête, à la fin qu'ils ont identifié ce personnage qui est traumatisé par sa mère, etc., a un commentaire du type « Au fond de moi, je pleure pour lui, je le plains, mais mon travail, c'est de l'anéantir. Voilà. » Et il y a une disjonction entre les affects humains du flic et sa mission sociale, on va dire. Et donc, la folie et la psychose, puisque c'est un peu présent dans notre intitulé, se manifestent sous des formes diverses. C'est-à-dire que Lecter est du côté du bien, finalement. Il aide les flics. Et le tueur lui-même est une sorte de victime, dans les deux cas, Dragon Rouge et Silence des Agneaux. Et finalement, les vraies grandes figures de pourri, c'est le directeur de l'asile psychiatrique qui exploite sa notoriété, qui essaie de construire sa carrière. Bon. Donc finalement, quand on décompose un tout petit peu l'usage de la psychose qui est fait dans ces livres et dans la figure du super tueur, c'est beaucoup plus ambigu et nuancé que ça. Et c'est peut-être parce que Robert Harris est quelqu'un de très intelligent.
Karine et Sylvain, vous vouliez intervenir ou... C'est comme vous voulez, hein, sur la figure sur cette figure du tueur, enfin surtout du tueur très, très excessif.
Il y a une chose qui est assez frappante, c'est que la figure du tueur en série, elle est quand même assez incontournable dans le milieu du thriller et du polar, qui est un genre dans lequel j'écris depuis quelques années. Voilà, c'est très difficile de ne pas tomber sur un tueur en série lorsqu'on choisit un roman, un thriller dans une librairie. Je pense que si le tueur en série est aussi présent dans les récits, dans les romans policiers, etc., c'est aussi pas que, mais c'est aussi en raison des facilités narratives que ce type de personnage procure à l'auteur. C'est-à-dire que le principe d'un thriller, c'est que vous devez créer du suspense, vous devez relancer l'intrigue, vous devez faire des coups de théâtre. Et quoi de mieux que des cadavres qui vont, si vous voulez, s'accumuler. Donc, dès le début du roman, on découvre un premier cadavre et progressivement, donc, l'enquêteur découvre une forme de signature. Et puis après, vous avez un deuxième cadavre et puis un troisième, pourquoi pas un quatrième, un cinquième au fil des chapitres. Et en fait, voilà, vous avez affaire à un tueur en série qui sème des morts derrière lui. Et du coup, chaque nouveau cadavre permet aussi, de façon assez artificielle, de relancer un peu l'intrigue. Donc, c'est voilà, pour un auteur débutant, par exemple, qui veut écrire un roman policier, mettre un tueur en série, c'est s'accorder une petite facilité dramaturgique avec donc cette possibilité de relancer l'intrigue par l'accumulation de morts. Ça, c'est une réflexion qui m'est venue en écoutant mes collègues. Personnellement, le personnage du tueur en série m'intéresse pas tellement dans la littérature que j'écris. D'abord parce que je le trouve très très éloigné de la réalité. Souvent, le tueur en série apparaît comme étant assez brillant, machiavélique, alors qu'en fait, dans le monde réel, ce sont des êtres extrêmement frustres qui profitent en fait de leur environnement, qui profitent d'une faiblesse de l'État, qui profitent d'un climat, d'un environnement social extrêmement dégradé pour pouvoir en toute impunité tuer des gens. Ce sont des prostituées qui sont tuées à Vancouver et qui n'intéressent personne. Ce sont des femmes qui sont massacrées à la frontière mexicaine dans une région où l'État est tout à fait défaillant. Et donc voilà, les tueurs en série profitent en fait d'un système environnemental qui leur permet de commettre leur forfait. Et voilà ce que je voulais dire.
C'est là où la littérature peut quelquefois en faire quelque chose de bien, où le cinéma, je pense, moi, je viens de voir The Fall, qui a, je ne sais pas si on pourrait un peu vraiment le qualifier de tueur en série, mais d'arriver à faire de l'ambiguïté avec quelque chose de très caricatural, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Pour arriver sur le terrain du monstre, quand même, qui fait partie aussi de cette représentation, moi, il m'a semblé que le monstre, dans la littérature, dans la fiction, c'est une chose, et que le monstre, en tant que mot utilisé dans notre société, c'est complètement autre chose. Ce serait quoi les deux représentations, pour le coup, qui semblent un peu contradictoires dans cet usage du monstre ?
Étymologiquement, le monstre, c'est quelque chose qui est unique, qui n'a pas d'équivalent dans le reste de l'expérience. C'est une créature qui n'a ni parenté, ni descendance. Après... il est probable qu'on soit tous d'accord pour dire que les médias ont un peu de facilité à qualifier tout n'importe quoi de monstre ou de monstrueux. Et ce qui nous intéresse, je pense, en littérature, enfin en tout cas ce qui m'intéresse moi, mais je pense que vous serez pas en désaccord, c'est surtout de traquer ce qu'il y a de moralement monstrueux, de moralement qui échappe à la norme ou aux représentations normées en chacun de nos personnages et du coup en chacun de nous tous. Le monstre en tant que tel peut être intéressant comme métaphore, voilà, la figure du vampire, du loup-garou, de tas de créatures. Et surtout intéressante, je pense, à la manière d'Hannibal Lecter dans les bouquins de Harris, comme catalyseur du reste de l'environnement. Alors que le monstre intérieur, ça va plutôt être un moyen d'exploration de soi, des personnages, de chacun. Je pense que la différence peut s'établir ici.
Alors d'abord, je ne sais pas si le monstre est une figure étrangère, disons, par définition, mais en même temps, il me semble que l'étymologie venait de monstrare, qui était de... En fait, le monstre, c'est celui qu'on exhibe et qu'on montre, parce qu'il est un spectacle physique en lui-même. Bon. Après, il y a le monstre moral, effectivement. Moi, je n'ai pas utilisé tellement de figures de tueurs en série, mais j'ai utilisé une figure classique du monstre absolu, qui est le docteur Mabuse, et par métaphore, l'hitlérisme qui se cache derrière. Et puis, en réfléchissant au thème de ce matin... j'ai réalisé que d'un seul coup, l'actualité était depuis 6 mois occupée par un chef d'État qui a des propos et des actes monstrueux réellement, à propos duquel on n'emploie pas le terme de monstre, mais qui est quelqu'un capable d'expliquer que le président juif de l'Ukraine est un nazi, c'est-à-dire qui est capable d'accuser en permanence ses ennemis de ses propres forfaits, et sur lequel on passe son temps à s'interroger sur sa rationalité. On dit « mais il est fou ». Il est psychotique, et puis d'autres qui disent non, il est parfaitement cohérent à l'intérieur de son système de pensée, c'est nous qui ne comprenons pas les bases sur lesquelles il résonne, bon, etc. Donc finalement, c'est une figure qui, au-delà même de la, du caractère spectaculaire et monstrueux au sens premier du terme, c'est-à-dire spectacle que peut avoir des personnages comme Hannibal Lecter et qu'on peut très bien d'ailleurs remonter à travers le temps dans des figures comme Jack l'Éventreur jusqu'à Gilles de Rais, c'est-à-dire des espèces de grands tueurs en série qui font du meurtre une sorte d'art aristocratique d'une certaine manière, quelque chose d'élégant presque. Il y a aussi cette figure du génie du mal qui nous occupe tout le temps là, depuis 6 mois, qui commet des milliers de morts réellement. Et pour lesquels nous, face auxquels finalement nous sommes assez désarmés du point de vue de l'analyse critique, puisqu'on n'arrive jamais à trancher. C'est moins un monstre qu'un fou ou quelqu'un d'extrêmement rationnel. On n'arrive pas à trancher. Donc la figure du serial killer dans la littérature, dans la fiction en général, est-ce qu'elle nous aide vraiment à comprendre le monstrueux quand on est face à lui ? Pas tellement en fait. On est dans des choses et dans des ordres de réalité assez différents.
De mon côté, je sais pas trop parce qu'en fait, dans ce que j'écris, je m'intéresse pas à la figure du monstre en tant que telle, parce que la figure du monstre ou ça déshumanise en fait, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Même si je travaille sur les loups-garous, bah quelque part, ça reste un humain. Et interroger le côté monstrueux, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je préfère regarder le côté humain. J'ai pas du tout non plus envie d'aborder. La folie d'aborder, enfin la neurodivergence sous le thème, enfin sous le prisme du monstrueux ou du il est fou. Bah non en fait, non pas du tout, c'est pas ça. Donc le monstre, pardon, le monstre qui est du déshumanise à chaque fois, c'est très employé en effet dans les médias pour dans ce cas-là pour d'autres. Il est fou, il est monstrueux. Non, il est purement simplement humain et c'est un peu trop facile de mettre tout de suite l'emphase sur il n'est pas humain, il y a quelque chose qui ne va pas, alors que bah oui, dans certains cas, ça peut être extrêmement rationnel et extrêmement volontaire. Alors qu'à l'inverse, quand on déshumanise généralement des gens ou des populations, bah, ce n'est pas ceux qui vont être les plus oppresseurs. C'est souvent l'inverse, en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'aime utiliser, que j'aime discuter, quelque part, parce que j'ai l'impression que souvent, on se trompe de cible de ce qui peut être dans la réalité, au final.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est la mise à, là, on en arrive à la mise à distance, justement. Ça ne peut pas nous concerner. Le monstre n'a rien à voir avec nous. Et nous, nous sommes les gens probablement bien, normaux, sains, et qui ne feront jamais ces choses-là.
Pas forcément. Mais c'est juste que quand on traite quelqu'un de monstre ou quelqu'un de fou, on cherche à se rassurer en fait que nous, ça ne l'est pas. Mais du coup, ça enlève une part de responsabilité que ça peut venir d'un système et que ce n'est pas juste la personne qui est folle dans son coin et c'est comme ça et tout le reste est parfaitement sain, normal, parfaitement bien portant. Donc je pense que ça ôte aussi une part de responsabilité d'interroger chacun de nous et l'impact social, sociétal, comme ce que tu vous disais sur les tueurs en série qui utilisent la société autour pour utiliser les failles. Et je pense que c'est un peu ça, c'est essayer de se rassurer quelque part en disant « Mais non, moi, jamais je pourrais faire ça, la société jamais pourrait faire ça, c'est juste quelqu'un tout seul, là, il y a juste quelque chose qui ne va pas, et voilà, quoi. »
Justement, on parle beaucoup de l'individu, finalement, mais à vous lire les uns les autres, ce qui est là où la chose devient intéressante, c'est que tout ce que vous racontez se place dans une société et que c'est plutôt ça, j'ai l'impression, qui vous intéresse à différents niveaux. C'est la société que vous imaginez, que vous créez ou que vous racontez dans ce que vous dites du monde dans lequel on évolue, justement pour voir la place de ces figures. C'est plutôt ce prisme-là. Je pense à Meute, justement, et ce monde, ou au maire de Vegorod, effectivement, qui sont des sociétés, qui sont des prismes de la nôtre.
Oui. Et ce que tu disais à propos de la stigmatisation et de la mise à distance que constitue le fait de traiter quelqu'un de monstre ou de fou, c'est quelque chose qui me travaille aussi beaucoup dans mes bouquins. En fait, dans Merde avec Gorod, enfin dans le cycle, mais même dans Nuit Noire, d'une certaine façon, je m'efforce de mettre en scène essentiellement des gens qui vont mal à divers niveaux. C'est-à-dire soit qui sont socialement oppressés, soit qui sont victimes de crimes, soit qui sont auteurs de crimes. Mais d'une façon générale, disons des gens qui vont être le plus éloignés possible du quotidien ordinaire de nous tous qui avons des appartements, des revenus décents et des tickets restaurants. Et par ce biais, j'essaye d'une part de décrire le système qui, avec beaucoup de bonnes intentions, produit ces souffrances-là. Et j'essaye aussi de montrer au lecteur, de façon souvent très, très frontale et très brutale, ces réalités psychiques, sociales, physiques, dans le but justement de provoquer de l'empathie. C'est-à-dire que si mes bouquins sont réussis, enfin s'ils touchent les lecteurs, avec un peu de chance, à force de voir des gens qui vont mal dans mes pages, ils vont prêter davantage attention aux gens qui vont mal dans la rue ou autour d'eux. C'est un peu un des fantasmes peu réalistes, enfin peu crédibles, mais j'espère, voilà.
Est-ce que les livres peuvent changer le monde? Mais alors là, ce serait un... Ou certaines choses, tout du moins, ce serait un autre sujet.
En même temps, 300 personnes un dimanche matin.
Mais peut-être qu'on fait aussi une... Dans ce début de conversation, peut-être qu'on fait une assimilation trop rapide entre fou et monstre. C'est-à-dire que, bien sûr, on dit un tueur fou, un tueur monstrueux. D'une certaine manière, tout ça, c'est le registre de l'anormal. Je peux peut-être faire quelque chose d'un... Comment dire, une nuance, parce que à un moment de ma vie, j'ai frôlé un épisode psychotique. Enfin, pendant quelques semaines, c'était une expérience étrange. Et pendant plusieurs années après, il m'a fallu plusieurs années après pour assimiler cette expérience, pour en faire quelque chose, pour arriver à mettre des mots dessus, pour arriver à comprendre ce qui m'était arrivé, en fait. Et à ce moment-là, j'avais jamais réfléchi à tout ça tellement, quoi. C'était les catégories du fou et de l'anormalité, je les avais reçues de la culture sans les discuter. Et donc c'est justement le jour où on bascule soi-même, où on est à la lisière d'une de ces catégories, qu'on réalise à quel point les contenus implicites ne nous ont pas préparés à cette expérience. Et ce qui m'avait frappé à ce moment-là, c'est le fait, la caractéristique de la civilisation scientifique dans laquelle on vit, c'est qu'on a fait du fou un malade. Mais et je précise que je plaide pour aucune école interprétative ou aucune position politique sur le sujet. C'est un étonnement que je partage. On est des gens qui ont fait du fou un malade, qu'il faut soigner. Bon, dans la plupart des civilisations qui nous ont précédés, les fous, c'est-à-dire ceux qui d'un seul coup dérogent à la règle, dérogent à l'usage, disent des choses qu'il ne faut pas dire, étaient vus comme des gens en proie à quelque chose de sacré. Il y a une part de sacré dans leur folie, dans la folie. Il y a des prophéties à saisir, il y a des interprétations du monde à prendre. Dans toutes les civilisations qui nous ont précédés, celui qui, à la moitié de sa vie, abandonne tout pour partir à la recherche de la vérité, de lui-même, de son destin, etc., était considéré comme un sage. Nous, on le gave de drogue et on le met dans un asile parce qu'il a cessé d'être productif et qu'il se met en danger lui-même et met en danger les autres. Donc, c'est intéressant de se dire que hors de la figure du serial killer ou du monstre oppresseur, etc., le fou, nous le prenons implicitement pour quelqu'un de malade qu'il faut aider et qu'il faut guérir. Alors que les processus à l'œuvre dans la psyché d'un individu qui est en train de basculer dans la psychose, dans la folie, en tout cas de sortir, disons, de la vie courante, pourraient très bien être interprétés différemment. Non pas comme une gêne ou comme une angoisse ou comme une, mais aussi comme quelqu'un qui est en train de vivre une expérience de sortie du monde de la production, du monde de la rationalité et de la causalité pure, du monde où chacun est censé trouver sa place dans un système, dans une machine, en fait. Peut-être que le fou, c'est aussi celui qui, à notre époque, ne peut plus vivre à un moment dans la machine, ne peut plus supporter de vivre dans la machine. Et ça, c'est une chose qui nous concerne tous, parce qu'en fait, cette souffrance-là, on l'a tous à un moment ou un autre. Elle est unanimement partagée. Donc on peut aussi se souvenir que derrière les figures de fous, il y a des figures d'événements sacrés, de personnes qui partent qui se lancent dans des processus de recherche complexes, dangereux, risqués, dont on peut ne pas revenir, mais qui ne devraient pas être systématiquement rangés dans la catégorie malade à soigner. Voilà. Je dis ça parce que, excuse-moi, je précise parce qu'il y a eu... Il y a quelques années, comment s'appelle, Philippe Labro, qui était donc cinéaste, écrivain, a fait une très grave dépression. Et il avait écrit à cette occasion un livre où il racontait son expérience après, qui s'appelait « Tomber cette fois, se relever 8 », ce qui avait d'ailleurs fait marrer Eric Nolot, qui avait dit « Ben non, si on tombe cette fois, on se relève 7 ». Donc, Labro racontait qu'en fait, il avait plongé dans un puits sans fond le jour où on lui avait proposé la direction d'RTL. Il disait « C'était le but de ma vie, et le jour où on me l'a proposé, j'ai pas pu ». Et il n'en tirait aucun enseignement. C'est-à-dire qu'il racontait son expérience de la dépression totale et il terminait en disant « Les médicaments m'ont sauvé ». Et c'était extrêmement décevant. Et je me souviens que sur le plateau télé où il parlait, il y avait un philosophe qui disait « Mais vous n'avez rien d'autre à dire de cette expérience que vivent les médicaments ». Et en fait, on s'est habitué à régler ces questions avec les médicaments. Et finalement, on n'a pas un vocabulaire conceptuel et des attitudes de vie par rapport à ces problèmes qui sont très riches, en fait, elles sont assez pauvres, nos attitudes. Il y a de la peur, il y a le désir de soigner et de ne pas en entendre parler, en fait. Voilà.
Si je peux rebondir, le problème, donc, il y a le fou comme vu non productif, mais le problème, c'est aussi de voir le fou comme un danger, en fait. Ce qui revient en monstre, alors que, bah, globalement, la plupart des études montrent que ce n'est pas le cas. Les gens qui vont être neurodivergentes, neurotypiques ou qui vont se considérer elles-mêmes comme folles, donc F-O-L, passent leur temps, les militants en ligne, etc., à dire mais arrêtez de faire de nous des serial killers, arrêtez de dire que si quelqu'un est un, voilà, enfin, les serial tueurs en série, c'est parce qu'il y a une folie sous-jacente. Il y a vraiment cette idée que la folie mène forcément à être dangereux, qui est extrêmement valorisée, mise en avant, on va dire plutôt, par les médias, par la culture, enfin par les films, etc. Alors que ça se base juste sur quelque part du fantasme, en fait. Et je pense que c'est aussi ça, en fait, qu'il faut combattre, de dire oui, d'accord, le fou est vu comme maladie, mais le fou est vu comme dangereux, et il est plutôt là le problème, en fait, de dire bah non, c'est pas le cas. Et pour moi, c'est ça l'intitulé de la conférence et du texte introductif, c'est dire bah oui, enfin, il peut y avoir de la folie, il peut y avoir la neurodivergence, de la neuroatypie. C'est pas pour ça que les gens sont à enfermer et à considérer comme au secours, il va me tuer dans la rue, en fait. Ben non, les trois quarts du temps, c'est pas ça, et c'est même plutôt l'inverse. Les statistiques montrent que c'est plutôt l'inverse, que les gens ont plus tendance à être victimes au final que coupables.
Je peux, excuse-moi, juste une seconde. Il y a un problème de flèche du sens, c'est-à-dire que tous les fous ne sont évidemment pas, ou tous ceux qu'on appelle fous ne sont évidemment pas ni dangereux forcément, mais à l'inverse. Quand on regarde les deux, trois dernières années, les actes très graves, les meurtres ou les meurtres de masse, finalement, on réalise après coup que beaucoup des gens qui ont agressé avaient des problèmes psychiatriques. Donc la flèche n'est pas causale dans le sens de fou égale danger. Mais quand on la retourne, on s'aperçoit que les gens qui ont provoqué des dégâts ont souvent des problèmes psychiatriques. Et je dis ça, je suis capable d'exprimer l'opinion contraire.
Faudrait, enfin voilà, moi je suis pas psy et j'ai pas des analyses poussées, mais enfin les études que j'ai pu lire avant de préparer disent que ben non, pas toujours, en fait. Donc voilà, moi je sais, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est ce que j'ai lu. Je pense que ça nécessiterait d'avoir des chiffres, enfin d'avoir des données chiffrées sur est-ce qu'en effet les gens qui commettent des meurtres sont ou pas ont ou pas des problèmes psychiatriques ou pas. Et ça, je suis pas sûre que ce soit le cas, en fait.
C'est vrai que dans l'écrasante majorité, la violence est rationnelle. Et le fait de très bonnes raisons qui sont souvent très matérielles et inspirées justement par le monde qui nous entoure, c'est-à-dire par le besoin de domination et l'avidité, et pas du tout par des motifs irrationnels. C'est très très rare, la violence irrationnelle.
On vous laissera bien sûr l'occasion de répondre, hein, tout à l'heure. Je ne vous oublierai pas.
Il y a aussi l'idée que, enfin, je reviens sur la figure du monstre, là on a la folie, le monstre, le criminel, c'est une sorte de triangle. Bon, c'est vrai que c'est quand même vrai, le monstre est toujours quand même le reflet de la société, et c'est aussi un peu notre reflet à nous. J'ai pensé à l'exemple du docteur Petiot, par exemple, qui était à la fois un tueur en série, mais qui tuait aussi donc des femmes, on le sait, mais aussi beaucoup de personnes d'origine israélite qui lui étaient confiées parce qu'il s'était fait passer pour un passeur et qui en fait il les égouillait dans son... Il les faisait brûler dans son four. Donc le docteur Petiot n'a pu prospérer que parce que la société était devenue criminelle, enfin parce qu'un pouvoir politique en place, aux ordres de l'occupant, antisémite et donc cet effet complice de la solution finale. Donc c'est toujours pareil, le monstre, c'est pas un individu comme ça, c'est pas une entité qui apparaît, enfin le monstre criminel, lorsqu'il existe, dans la littérature ou dans la vraie vie, c'est toujours quand même le reflet un peu d'une certaine forme de société. Et moi, il y a une figure qui m'intéresse dans la folie, c'est la folie en tant que... C'est la passion amoureuse, en fait. Parce que la passion amoureuse, ça, c'est un sujet que j'ai traité parce que c'est une forme de folie qui est tolérée par la société. Voilà. Alors que d'autres formes de folie ne sont pas tolérées, elle mène à l'enfermement. La passion amoureuse, lorsqu'elle évidemment ne débouche pas sur un féminicide, ou, bon, la passion amoureuse est valorisée, reconnue par la société. Et ce qui est inquiétant, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, dans ce monde numérique qui est le nôtre, on a à la fois des systèmes de surveillance, des entités numériques qui sont un peu notre reflet, et comment tout cet univers, ce cyberespace, en fait, est en train de nous transformer. À la fois de transformer notre reflet à nous, la perception qu'on a de la façon dont on s'aime et aussi comment ça peut aussi créer des monstres. Dans un de mes romans qui s'appelle Sauvelage, je raconte comment un homme, finalement, qui était très épris d'une jeune femme, est recontacté par SMS de nombreuses années après leur séparation, alors même qu'il va se marier. Et finalement, il découvre que cette femme est décédée depuis un certain temps et qu'elle communique avec lui avec un chatbot, un robot conversationnel, dopé à l'IA, qui en fait a été entraîné pour discuter avec lui et lui donner des indices pour l'aider à retrouver sa fille. Bon. Et en fait, l'idée du roman en fait, sous-jacent, c'est... Est-ce qu'on ne risque pas de retomber amoureux à discuter avec une personne qu'on a beaucoup aimée et qu'on n'a jamais oubliée en parlant dans une machine, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on garde ce téléphone dans son grenier, qu'on fasse sa vie conjugale ordinaire, mais que de temps en temps, on s'envoie un petit shoot extra-conjugal en reprenant une discussion amoureuse avec une entité qui, elle, nous aime comme au premier jour et qui, jusqu'à la fin des temps, va être capable de nous répondre et entretenir avec nous une conversation amoureuse? Ce qui renvoie aussi à la question des intelligences artificielles, qui sont en fait des entités de plus en plus prégnantes dans notre société et qui sont formées à partir de data qui sont en fait souvent des échanges sur les réseaux sociaux. Or, on sait que sur les réseaux sociaux s'y expriment principalement des gens qui sont en colère, qui sont revendicatifs, qui ont une tendance à un peu noircir les choses, avec des algorithmes qui les enferment dans des bulles où les gens les plus ultra finissent par dialoguer en permanence entre eux et donc à se monter le bobichon. Ce qui fait que lorsque quelqu'un lance une fatwa ou appelle au meurtre, et ben tôt ou tard, il y a un type qui va dire bah oui, moi je veux bien aller décapiter, gorger un tel ou un tel. Et du coup, le problème, c'est que ces IA qu'on est en train de former, on les forme à partir de conversations qui sont haineuses, en fait. Et tous les exemples qu'on a vus sous Twitter, etc., de lancer comme ça des IA, alors il y en avait une qui était, en fait, ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait en Corée, vous retrouverez les exemples facilement, et ben, en fait, en quelques jours, on a des IA qui sont devenues complotistes, sexistes, phallocrates, tout ce que vous voulez, enfin, les pires reflets de notre société. Et donc, d'où tout le problème aussi, c'est que les monstres de demain, ce seront peut-être des monstres numériques qui sont en fait tout simplement notre reflet, qui sont la pire part de nous-mêmes. D'où l'importance urgente, et ça c'est un sujet qui me tient à cœur dans le cadre de mes activités autres dans la cybersécurité, c'est que les femmes soient de plus en plus intégrées dans les écoles d'ingénieurs informatiques et que les femmes se mettent aussi à coder. Parce que sinon, s'il n'y a que des hommes qui codent et qui forment des IA, nous aurons des IA qui seront phallocrates, sexistes, etc. Et toutes les conquêtes féminines qu'on pourrait avoir dans la société seront battues en brèche dans le cyberespace, qui va devenir hyper dominant. Et ça serait quand même dommage que ce que les femmes ont gagné dans la rue et dans les bureaux du monde réel, elles le perdent dans le métavers, par exemple. Où là, on retomberait dans une sorte de société du 18e. Donc voilà, ça, je pars un peu dans tous les sens, mais le monstre, c'est notre reflet et ça interroge aussi sur qui nous sommes et comment nous vivons entre nous.
Je crois que ce qui était assez clair, c'est que le problème dans ce genre d'intitulé, c'est qu'on met beaucoup de choses en même temps et que de rapprocher folie et crime va tout de suite biaiser les choses. Et effectivement, c'est le sens de la flèche qui compte et l'introduction de la rationalité est importante, justement. Puis on connaît toute la problématique des expertises ensuite. On en entend assez parler en ce moment. Et justement, cette question, moi, je trouve qu'elle est intéressante sur votre position moral et votre responsabilité justement en tant que créateur dans ces représentations-là, Christophe, justement, du fait de parler de la rationalité, c'est forcément, c'est peut-être pas forcément, mais est-ce que justement la représentation que vous allez donner est présente à votre esprit dans les histoires que vous allez raconter, puisque justement vous êtes assez une bonne incarnation de cette subtilité, je trouve, à poser ces problèmes-là de l'altérité et de la norme.
Alors, déjà, en tant qu'auteur de fiction, je me sens aucune responsabilité que ce soit, à part de raconter de la façon la plus juste et la plus exacte possible les histoires que j'ai à raconter, et donc de suivre mes narrations et mes personnages là où doivent me mener. Après, évidemment, je suis aussi un être humain dans le monde réel, et je pense que ce que j'écris, plutôt qu'être le reflet d'une responsabilité ou d'une position morale, est plutôt le reflet de mon expérience intime, de ce que j'observe, et parmi ce que j'observe, il y a des choses dont j'ai davantage envie de parler que d'autres, et peut-être qu'effectivement ça confère à mes textes, qui n'en demandaient pas tant, une éventuelle portée morale. C'est-à-dire que si je choisis de parler des clochards, des prostituées, des gens assassinés, des gens qu'on enferme, des gens qui d'une façon ou d'une autre sont mis au banc de la société, et que je choisis aussi de ne pas parler des gens qui ont 3 000 euros chacun de revenus et qui ont des problèmes de divorce et d'adultère, c'est effectivement probablement, ça devient un choix moral et un choix politique, mais au départ c'est avant tout le reflet de ce que j'observe autour de moi et de ce que j'observe peu en littérature. Donc j'essaye d'introduire dans la littérature que je fabrique un petit peu de ce que je vois dans le monde qui m'entoure. Mais je ne me fixe pas de responsabilité ni de but pour autant, à part celui dont je parlais au début, qui est, ouais, si je peux créer chez mes lecteurs et mes lectrices un peu plus d'empathie, ma foi, c'est pas si mal.
Dure question. Je dirais que si j'ai une responsabilité, ce sera un peu, je sais plus, c'est le serment d'Hippocrate qui dit d'abord ne pas nuire. Je crois, je sais plus, j'ai un trou. Ce serait peut-être ça en fait, la responsabilité que je me fixe moi. C'est-à-dire, ok, je peux raconter des choses, je peux potentiellement tuer des gens, je peux avoir des mercenaires qui vont tuer des gens parce qu'ils n'ont pas le choix, mais je vais essayer de pas traiter mes personnages de manière respectueuse, tout comme je traiterais un humain de chair et d'os de manière respectueuse. Donc ça veut dire, pas faire de psychophobie malgré moi, ou d'essayer de pas le faire du moins, parce que bon, après on a tous des biais et des taches sombres qu'on voit pas forcément. Mais ouais, ce serait cette idée d'essayer de traiter bien les choses. De ne pas avoir des problèmes racistes qui vont surgir ça et là. Donc, c'est pour ça que j'avais utilisé, par exemple, un sensitivity reader, d'essayer de me renseigner sur les différentes problématiques que je vais aborder pour ne pas essayer de ne pas trop raconter de bêtises et d'offenser tout le monde alors que ce n'est pas l'idée. Après, voilà, c'est ma responsabilité à moi, mais je n'ai pas forcément de posture morale où je ne cherche pas à apporter la sagesse à mon lectorat. Ce n'est pas mon but. Moi, j'écris avant tout pour m'amuser et pour éventuellement que les lecteurs s'amusent. Mais oui, ma responsabilité à moi, c'est de traiter les choses aussi respectueusement que je peux, tout en restant humaine, quoi.
Alors c'est vrai que c'est difficile, par exemple, dans le monde du polar, d'écrire un roman policier sans s'intéresser à la société et sans glisser vers une sorte d'analyse de ce qui ne va pas, avec l'envie d'en faire le reflet. Il y a un truc quand même, il y a une technique d'écriture bien connue qui est que tout le monde a ses raisons, en fait. Et c'est vrai que je pense que l'idéal, ça serait un roman qui aborderait un thème. Dans mon dernier roman, par exemple, je parle de l'insécurité à Nantes et d'un maire populiste qui se fait élire uniquement en basant son programme sur la sécurité, qui installe donc des caméras dans la ville dopées à l'intelligence artificielle. Donc Nantes devient une sorte de super de Nice plus, avec des caméras à la chinoise qui sont capables comme ça de mettre fin aux manifestations dès le début. Donc plus de saccages en centre-ville, plus d'individus cagoulés, plus d'insécurité. Et donc, on se dit, bon, alors là, le thème qu'on va développer, c'est les smart cities, les safe cities, et ces technologies chinoises qui sont en train, dont on se fait le lobby auprès de l'Association des maires de France, etc., qui commencent à infuser dans la société. Et avec l'idée de se dire, bah, tiens, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, donc c'est le moment de revenir sur le sujet en disant, vous avez vu ce qui s'est passé au Stade de France, le grand ratage du Stade de France, on ne va quand même pas tolérer que la France se ridiculise en organisant les futurs Jeux Olympiques. Il y a la Coupe du Monde de rugby en 2023. Donc il faut se doter maintenant d'outils modernes. Et donc là, on est à la jonction où il y a la tentation de passer dans une société de surveillance, vraiment, mais alors très, très loin de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et donc le but, si j'écris un roman en disant « Oh là là, c'est les caméras, c'est mal, vive la liberté, vive les petits oiseaux », ça va intéresser personne. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde a ses raisons, donc il faut donner la parole à tout le monde, c'est-à-dire aux élus, qu'est-ce qu'en pensent les policiers, qu'est-ce qu'en pensent les jeunes, qu'est-ce qu'en pensent... Il faut que tout le monde ait la parole et que tout le monde exprime la façon dont il voit les choses et que le lecteur se dise finalement tout le monde a ses raisons, tous les comportements des uns et des autres sont parfaitement justifiés, l'élu a priori est justifié dans sa démarche, etc. Et il faut qu'à la fin ce soit au lecteur de se faire sa propre opinion, comme s'il avait entendu comme s'il était un juge de paix qui avait entendu toutes les parties s'exprimer et lui se fera son opinion en se disant c'est bien, c'est mal. Et parfois ça crée quelques incompréhensions. Dans le Vallon des Parcs, c'était l'histoire d'une enquête policière durant le régime de Vichy, en 1943, où justement des policiers enquêtent sur un tueur en série, et des journalistes m'avaient dit « Ah, mais vous avez quand même... on voit que vous avez tenté de réhabiliter Bousquet, par exemple. Vous avez réhabilité certaines figures de la collaboration. » Et je disais « Bah non, pas du tout. Simplement, il faut bien comprendre que dans un roman historique, le personnage n'est pas en avance sur son temps. Et en 43, un mec en 43, il pense que l'Allemagne a gagné la guerre, que le débarquement, c'est très, très loin, très hypothétique. Et donc, il se dit « Bah voilà, les Allemands sont là pour longtemps, donc j'essaie de faire mon travail. » Et à ce moment-là, il y a une figure politique qui dit « On va mettre fin aux polices secrètes, on va revaloriser les Brigades du Tigre en leur redonnant toute autonomie. » Un policier à cette époque-là, il peut que dire « Formidable, j'applaudis. » Après, évidemment, tout ce qui s'est passé de dramatique après, ils ne le savent pas encore. C'est souvent ce qu'on ne voit pas dans les films. Dans Le Nom de la Rose, quand vous voyez Guillaume de Baskerville, ce moine qui est déjà une sorte de Sherlock Holmes, qui lui est très en avance sur son époque. C'est un visionnaire, c'est un amateur de science, etc. Il sort complètement du lot au milieu de ses pairs, qui sont tous un peu des grenouilles de bénitier. Mais est-ce que c'est vraiment un personnage crédible? Il y en a eu, bien sûr, mais la plupart du temps, les gens vivent en même temps que leur époque et ils ne voient pas au-delà de leur époque. Donc, c'est important. Voilà, un roman, il faut arriver à... personne n'est vraiment méchant, par exemple, dans la vraie vie. Ça ne veut rien dire, un méchant. Personne ne se croit méchant. Je suis persuadé que quand Poutine se regarde dans la glace le matin, il n'est pas en train de se dire à mon beau salaud, t'es vraiment un bel enfoiré.
Personne ne se dit non. Je suis le méchant de cette histoire.
Même Hitler était persuadé d'être dans son bon droit et de faire quelque chose qui était tout à fait bien pour l'Allemagne et pour les siècles à venir. Donc, quand des parents mettent leur enfant en pension parce qu'ils pensent qu'il sera dans un meilleur environnement qu'à la maison, parce que le couple est en train de se déchirer, le gamin vit ça comme une grande injustice, mais en fait, les parents sont persuadés de faire ça pour le bien de leur enfant. Donc il faut aussi que dans un roman, le méchant, il faut que ses actes soient justifiés. Il faut qu'il ait un code moral qui lui est propre, qui peut nous révulser, qui est souvent totalement opposé au code moral du héros, mais il doit exister parce que dans la vraie vie, personne ne se dit « Oui, je suis méchant, ah là là, je suis vrai. » Comme dans les contes de fées, parce que ça, c'est pour les enfants.
Oui, en fait, chacun, c'est un peu ce que tu disais, chacun est le héros de sa propre histoire. Il faut traiter chaque personnage comme tel. Le moindre passant dans la rue pourrait devenir le protagoniste d'un roman qui change d'angle. On est complètement hors sujet, mais...
Non, pas tant que ça. Quand même, parce que c'est une question de point de vue. Et il y a dans tout ce qui se chevauche là, on voit qu'il y a à quel point c'est les histoires et la fiction, ce qu'elles renvoient comme miroir. Et aussi, vous faites énormément référence au monde tel qu'il nous entoure et tel qu'on le connaît. Et ce sont aussi deux choses différentes.
Mais c'est vrai que pour raccorder un tout petit peu au sujet, l'idée de considérer chaque protagoniste, y compris le plus secondaire, le moins signifiant de son histoire, comme le héros potentiel de son propre récit, si on réussit son coup, ça permet aussi sans doute le lecteur s'en rend compte parce que c'est plus crédible, parce que le monde est plus riche, etc. Mais ça permet aussi de se rendre compte que dans la vraie vie, c'est pareil, comme tu disais, c'est-à-dire que la boulangère qui fait la gueule, c'est pas parce qu'elle aime pas ta tête, c'est parce qu'elle a ses propres problèmes et que dans sa propre histoire, tu n'es qu'un imbécile qui passe. Et ça aussi, ça génère, je pense, du coup, encore une fois, davantage d'empathie et de compréhension entre les uns et les autres.
Je voulais qu'on vous passe la parole aussi un petit peu, parce que je pense que vous avez eu des réactions et peut-être des remarques sur ce que les uns et les unes et les autres ont pu dire. Donc, si vous vouliez intervenir et leur renvoyer certains propos ou continuer à prolonger la discussion, est-ce qu'on peut vous faire passer un micro éventuellement ?
Allô ?
Ouais.
Tout d'abord, je voulais juste donner une statistique. Donc, c'était publié, c'était la APA, donc la American Psychological Association dans Law and Human Behavior 2014. En gros, c'était 7,5% de crimes violents associés à des troubles psychiatriques. Voilà, je voulais juste commencer par ça. Ensuite, j'avais deux, trois petites choses à peut-être discuter. Par rapport à la folie et au sacré, par rapport à qu'avant, il y aurait eu une considération que dans d'autres sociétés, c'était systématiquement considéré comme sacré. J'aurais voulu savoir peut-être votre avis sur l'acédie des moines, sur la mélancolie décrite par Hippocrate, peut-être, sur comment on décrivait dans la Grèce antique ces accès de folie, cette punition divine d'avoir voulu plus que ce que le destin nous permettait. Enfin, est-ce que c'est vraiment une considération sacrée, sachant qu'Hippocrate est quand même une considération médicale de son époque? Ce démon de midi chez les moines qui est considéré comme un péché, l'acédie est un péché grave chez les moines, donc j'ai un peu de peine à considérer que c'est quelque chose de sacré quand c'est un péché. Vaincre l'acédie, c'est sacré, mais la folie n'est pas sacrée en elle-même. Donc, je pense que c'est deux choses quand même un tout petit peu différentes. J'ai noté encore quelques petites choses. Je pense que c'est intéressant aussi, il y a la question de être méchant. Enfin, il y a quelques personnes qui peuvent se considérer comme méchantes elles-mêmes. Et je pense que c'est justement le tueur en série, du fait qu'il a cette absence de remords, le trouble de la personnalité antisociale. En tout cas, quand on a des enregistrements, des témoignages de tueurs en série comme Ed Kemple, comme Ted Bundy, ils peuvent dire eux-mêmes, je savais que ce que je faisais était mal. J'ai la conscience totale que massacrer ces personnes est mal, mais votre code moral ne s'applique pas à moi parce que moi, je vous suis supérieur. Et c'est souvent un peu la marque de la personnalité antisociale, c'est ce mépris, cette incapacité à ressentir des remords pour ses propres actes et de l'empathie pour d'autres personnes et ne pas être mal à l'aise à l'idée de ne pas être le héros de sa propre histoire. Et ça, je pense que c'est assez intéressant, c'est que un antisocial, donc le psychopathe comme on dit des fois vulgairement, n'est pas dérangé forcément à l'idée de ne pas être le héros, en fait. Donc peut-être c'est la seule personne, seul type de personnalité qui n'est pas dérangé à cette idée-là.
Je vais vous interrompre. Oui, il y a déjà deux gros dossiers. Voilà.
Je laisse le micro.
Et je les laisse répondre ou se prolonger ou pas.
Je réponds brièvement, puisque la question sur la mélancolie ou l'acédie ou la part de sacré... Je ne renvoie pas à un âge d'or passé où la folie aurait été placée par les anciens à sa juste place. Mais je dis que le monde chrétien, c'est un peu à part, puisque tout est placé sous le signe du péché. Donc l'acédie est un péché, c'est un état qu'il faut éviter, c'est un état de péché. L'acédie, c'est la mélancolie des anciens transposée dans le monde chrétien, si je me souviens bien. Mais, par contre, pour les gens d'avant l'Empire romain chrétien, pour les païens, la réflexion sur la mélancolie, en particulier ce qui s'appelle le problème 30, c'est-à-dire la relation de ce qu'on appellera plus tard les humeurs noires, et le fait que l'humeur noire gouvernée par Saturne, c'est un état de mélancolie. Mélanos, c'est le noir. La mélancolie, ça veut dire la bile noire. On pensait que c'était donc que l'être humain qui basculait dans la mélancolie était en fait placé sous le signe magique, mais actif. C'est pas de la magie pour nous, c'est la magie des anciens. Sous le signe de l'influence de Saturne, et donc entrer dans un monde mental et dans un système de comportement qui relevait au sens propre de la mélancolie, de la dépression, etc. D'abord, il y a un lien qui a été fait tout de suite à l'époque des philosophes entre cet état et le génie. Et d'ailleurs, il y a eu une exposition à Beaubourg il y a 2 ou 3 ans sur mélancolie et génie qui était très intéressante parce qu'on voit que ça a été associé pendant pratiquement toute l'histoire humaine, cet état de dépression ou de mélancolie et la production d'éclairs de génie. Et ce que je voulais dire, c'était qu'il y avait justement ce que rappelait cette exposition, une part de sacré, une part d'inexplicable, une part de mystère. Il y avait là, à l'œuvre, dans l'esprit d'un être humain en proie à la mélancolie ou à la dépression, un processus qui était plus riche que simplement le fait de ne plus être heureux et de ne plus se réjouir de la vie. C'était aussi le moment où on produisait des choses inattendues et nouvelles. Voilà. Et peut-être que notre société et notre vue contemporaine sur l'esprit humain, la plupart du temps réduit au cerveau, en fait, à son objet matériel, à son support matériel, est une vision pauvre d'une certaine manière. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on a des outils chimiques qui peuvent aider des gens à surmonter des difficultés terribles d'ordre psychique. Mais en échange de ce soutien matériel, on a peut-être perdu de vue ce que ces états peuvent aussi avoir d'extraordinaire et de grands moments de création. Ce qui n'est pas une manière de les idéaliser, mais de rappeler qu'elles ont un autre contenu que simplement le fait d'être handicapé socialement par un état qu'on ne contrôle pas.
En un sens, la causalité s'est un peu inversée. C'est-à-dire qu'on voit très bien maintenant que quand on a fait l'épreuve du génie, on a le droit d'être hors norme, d'être mélancolique ou de se comporter hors des normes sociales. Mais c'est dans l'autre sens maintenant. Il faut d'abord être Spielberg et ensuite être dépressif.
Karine, je vous voyais...
Au lien entre mélancolie et créativité. Et, alors, je ne sais pas à quel point c'est vraiment le cas, à quel point ça tient du mythe. Mais enfin, je sais que quand je suis totalement déprimée, moi, j'écris pas. Hein. Moi, globalement, faut que je sois. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce mythe du poète maudit, de l'écrivain maudit. Mais je me demande en fait à quel point. Je sais pas s'il y a des études ou autres sur ça. À quel point c'est du mythe en fait et c'est de l'auto-promo quelque part. Parce que moi, je sais que quand je suis déprimée ou fatiguée ou j'ai pas envie ou en deuil ou n'importe quoi pour X raison, je fixe ma page blanche et je finis par refermer le PC. Je dis, on va aller prendre du chocolat et on verra plus tard. Hein.
C'est peut-être un état plus léger que la mélancolie dont parlait Serge. Oui,
je dis pas que les idées noires, la mélancolie peut pas être productive. Il y a pas que ça. Parfois, c'est bien aussi de le rappeler en fait.
Sur la deuxième partie, c'était que oui, quand même, certains ont conscience la conscience du mal, mais est-ce que c'est la conscience du mal, c'est la même chose que de se dire je suis méchant?
Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement des figures, on sait qu'il y a des personnes qui ont conscience de l'existence d'un code moral dans la société, simplement ils n'en ont rien à faire, c'est-à-dire que ça ne les concerne pas. Je pense que dans un roman, ce qui est intéressant, lorsque vous avez un personnage comme ça qui existe, c'est de raconter comment il est devenu comme ça. Ça, c'est un peu la tendance aujourd'hui, c'est d'essayer aussi d'expliquer pourquoi il est devenu comme ça, comment il était au départ, quel a été l'environnement, le cadre, l'enfance, qui a fait qu'il est devenu cette espèce de psychopathe, enfin bon, pour Jean-Paul Alterme, beaucoup de guillemets, n'étant pas expert en la matière, mais c'est de raconter le passé. Ok, on prend un personnage alors, dans un récit qui, effectivement, est méchant par choix ou par destinée, mais pour que ce soit intéressant pour le lecteur, parce que ce qui est intéressant dans la vie, c'est de faire ressortir les nuances et la complexité des êtres, c'est de raconter aussi comment il est devenu comme ça, à mon avis.
Oui, et puis pour revenir encore au tueur en série, bon, qui est une figure très marginale, mais qui a été évoquée, c'est encore une fois la question de l'absence de l'empathie, c'est-à-dire que si on a conscience qu'un code moral existe, mais qu'on s'en fiche, on se situe très nettement au-dessus des autres, on a un narcissisme tel qu'en fait, on se voit comme le seul héros de toutes les histoires possibles, et les autres ne sont que des figurants qui sont bons à être taillés en pièces ou à être utilisés d'une façon ou d'une autre. Et donc, au contraire, le tueur en série va être presque par définition celui qui se voit comme le héros, comme le seul héros en fait possible, les autres n'étant que de la viande.
Il y avait d'autres questions pour vous, pour eux, ou remarques? Moi, je ne vous vois pas, donc bonjour. Je ne sais pas.
Ah, si, c'est bon. Bonjour. Du coup, j'ai une petite question, notamment vis-à-vis de la figure du tueur en série et de ce qu'on peut voir actuellement, qui est une grosse romanticisation de cette figure, du fantasme, en fait, que ça peut entraîner. Et à votre avis, quelle peut être la part de l'auteur pour pas arrêter de fantasmer sur ces figures, mais qui est moins ce côté romantique, ce côté sauveur au tueur en série de « non mais moi il ne me touchera pas, moi il ne me fera pas de mal », ce genre de choses. On peut voir, puis notamment aussi avec le nombre de séries sur ces tueurs qui paraissent, aussi avec les lettres qui vont leur être écrites, ce genre de choses.
Ça renvoie à votre responsabilité.
Ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a des tueurs en série reçoivent, peut-être pas tous, mais reçoivent comme ça autant de lettres d'admiratrices? Je me pose la question.
Oui, c'est vrai que c'est un truc assez étrange. Mais pour en revenir à la figure qui l'occupe dans la littérature, c'est comme tu disais, en fait, c'est une technique et un cliché commode pour des auteurs ou débutants ou ma foi, sans beaucoup d'imagination peut-être. Sauf quand on est Robert Harris.
Il y a aussi un élément important dans la mythologie, entre guillemets, du tueur en série, et qui en fait a commencé avec Psychose de Robert Bloch, adapté par Hitchcock, et qui est devenu... J'avais écrit un article dans Le Monde sur ça, sur le fait que le tueur en série avait pris place quasiment dans la littérature fantastique, alors qu'il n'y a pas d'élément surnaturel. C'est la folie elle-même qui ressemble, qui a quelque chose de démoniaque, mais dans les romans et dans les films. Mais il n'y a plus d'éléments surnaturels ou fantastiques. Et pourtant, on dit souvent que ce sont des romans fantastiques, on est à la lisière du fantastique, mais pas du tout. Il y a un autre élément de séduction dans la mythologie des tueurs en série, c'est qu'ils sont capturés au terme d'une longue victoire, d'un long combat et d'une victoire de la raison. La caractéristique du tueur en série, c'est que sa chasse est un jeu de pistes où il faut repérer des indices. On n'est pas juste sur une seule scène de crime. On essaye de faire d'avoir un dessin à partir d'un puzzle qui a volé en mille morceaux. On essaye de reconstituer le puzzle. Et le travail d'enquête, en particulier, je me souviens de la puissance de Dragon Rouge et du Silence des Agneaux pour ça, l'enquête policière elle-même est particulièrement excitante. Et à mon avis, c'est un des charmes des histoires de tueurs en série. Et on n'est pas uniquement du côté du tueur, on n'est même presque jamais du côté du tueur. On est au moins autant avec les flics qui essayent d'entrer dans le système de rationalité parallèle du tueur. Et c'est, d'ailleurs, il y a une figure intermédiaire qui est, dans le cycle de Robert Harris, le flic qui est du côté de la raison et du bien social, mais à qui on demande de se mettre dans la peau du tueur, ou dans la peau mentale du tueur, pour raisonner comme lui, et qui en souffre, parce qu'il découvre qu'il a aussi ses pulsions en lui, et qu'il va falloir qu'il les canalise pour l'enquête, et pas simplement pour leur donner libre cours. Donc c'est finalement, autour du tueur en série, il y a une mythologie un peu plus riche et un peu plus étendue que celle simplement du tueur fou qui prend plaisir à tuer.
Et effectivement, du coup, c'est des livres qui mettent souvent en scène, comme tu le dis, le triomphe de l'ordre social, et c'est peut-être dans la vraie vie aussi, enfin, en tout cas ceux qui sont arrêtés, et c'est peut-être pour ça effectivement que des gens sont fascinés par eux au point de leur écrire, parce que peut-être qu'ils représentent du coup une forme de subversion ultime, une espèce d'anti-establishment total, ce qui peut produire une certaine fascination, même si elle est à mon avis très à côté de la plaque. Mais
et il y a peu de... je sais pas, enfin moi j'ai pas d'intérêt spécifique pour les tueurs en série ou pour les séries, les films qui vont traiter, donc c'est un point de vue très extérieur sur la violence en général. Je pense que ça a aussi un côté cathartique, en fait. Enfin, c'est des gens qui vont nous fasciner parce que quelque part on a tous un moment non mais j'ai envie de le buter celui-là, mais j'ai envie de le buter, et on le fait pas. Et je pense que ce côté de voir des gens qui vont passer à l'acte et qui vont le reconnaître ou pour certains en être fiers, je pense qu'il y a vraiment ce côté aussi cathartique et fascination de briser le carcan des règles sociales, des règles de vie en société, des règles humaines, etc. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là qui va, ce côté fascination pour le côté très cathartique et très pas expiatoire, mais enfin j'ai oublié le mot, mais vraiment ah oui, qu'est-ce que quand même parfois j'aimerais bien faire ça, quoi, tout en sachant que on le fera pas, sauf nous, parce qu'on est auteur et qu'on peut se permettre d'avoir des persos qui vont le faire pour nous, et c'est très bien aussi.
Au final, c'est une double compensation, puisqu'on a d'une part l'explosion de la violence antisociale et d'autre part le triomphe final de l'ordre. Donc on est quand même, ouais, c'est des livres très très rassurants, et c'est pour ça qu'ils marchent au final.
Oui. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution des outils d'analyse criminelle qui apparaissent aujourd'hui et qui vont rendre la traque des tueurs en série de plus en plus, plus en plus efficaces. Hein. Notamment, je pense au programme, j'avais écrit un roman qui s'appelle Parasite, qui met en scène ces outils-là, mais il y a un programme européen qui s'appelle Valcry, V-A-L-C-R-I. Donc le but, c'est de demander à une intelligence artificielle de, en fait, d'étudier des milliers de cotes de procès-verbaux lorsque des affaires deviennent tellement complexes qu'un esprit humain n'est plus capable de les appréhender. Alors, l'exemple très connu, c'est l'affaire Grégory. Hein, voilà, on a un enfant qui a été tué et on a entendu tout le monde. Voilà, il y a eu toutes les pistes ont été explorées et aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a tué ce gamin. Et donc, on a des gendarmes qui se sont mis patiemment dans un tableau un petit peu amélioré à essayer de répertorier tout un tas d'informations pour, à l'aide d'une machine, d'un tableur, de trouver des indices qui n'auraient pas été mis en exergue. Mais ça, ce qui a été fait patiemment avec un stylo ou même un ordinateur, ça va être fait de façon automatisée par une intelligence artificielle. Donc, il faut imaginer que la machine, elle va lire donc des milliers de procès-verbaux par un procédé de scrapping. Elle va extraire, donc c'est de la reconnaissance de caractère, elle va extraire tous les numéros de téléphone, toutes les plaques d'immatriculation, tous les profils. Et vous allez pouvoir l'interroger donc en disant, voilà, je voudrais savoir combien d'hommes de 25 à 30 ans se trouvaient à moins d'un kilomètre du corps du garçon à telle date. Et donc, elle va dire, ben, il y avait 25 hommes. Peux-tu me donner tous les numéros de portable de ces hommes, notamment ceux qui commencent par 0605 ? Ben, voilà, il y en a 4. Lequel de ces hommes possède une voiture dont la plaque d'immatriculation commence par un tel et un tel ? Et comme ça, la machine est capable de vous faire progresser très vite. Et vous pouvez même lui demander elle-même de dégager des pistes, des raisonnements. Donc voilà, vous avez une IA qui va soulever chaque pierre. Et on n'aura plus maintenant des journalistes qui vont s'épuiser à la tâche pendant des années, comme dans l'affaire du Golden Gate, pour trouver un tueur en série, ou des enquêteurs qui vont être poussés au suicide, parce que vous avez aussi la figure des gendarmes qui se suicident dans l'affaire Émile Louis et dans bien d'autres. Hein, c'est-à-dire, les affaires sont tellement prenantes, tellement complexes, que les gendarmes, les enquêteurs, ils laissent leur santé. Ben, maintenant, on va avoir aussi des machines qui vont pouvoir, de façon automatisée, explorer vraiment tous les traces, tous les indices, et ça, c'est assez fascinant.
Ça va être dur à mettre en scène dans des romans. Ça va être moins sexy.
Et puis on espère que ce n'est pas ça notre seul avenir, surtout. On va devoir terminer. On est arrivé au bout du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Vous pouvez les retrouver donc en signature si vous voulez prolonger la discussion avec eux. Merci pour vos questions et pour votre présence. À bientôt. Merci.